BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, je reçois le pape du dialogue social, ça tombe bien, il est un peu bloqué. Bonsoir Pierre Ferracci.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes président du groupe Alpha. Alpha, c'est un groupe que vous avez créé, vous venez de fêter vos 40 ans, enfin,
oui.
Les 40 ans, c'est un groupe quand même, mine de rien, qui a quand même 130 millions de chiffre d'affaires, que vous avez
oui,
créé.
Tout à fait.
Pour quelqu'un très cégétiste, très à gauche, et c'est bien d'avoir créé une grosse entreprise hein, aujourd'hui, vous en êtes fiers.
Mais c'est bien d'aider les représentants du personnel et les entreprises à trouver le chemin du dialogue social, et tant mieux si on est fort et puissant.
Ça vous êtes fort et puissant, le moins qu'on puisse dire, et puis vous êtes en train de le devenir, en tous les cas, vous êtes en train de devenir une star dans le foot, puisque vous avez, et vous êtes majoritaire, le Paris FC, qui est le deuxième, voire le troisième, allez, on va dire le deuxième club de foot à Paris, à Charletti, et là, vous avez lancé un pavé dans la mare, vous avez dit à partir du 11 novembre, c'est gratuit quasiment sur l'ensemble des 17 000 places de Charletti, c'est gratuit. On va garder le meilleur pour la fin, on va commencer par le dialogue social, qui est quand même très très important. Demain, c'est la fin des... Demain et après-demain, c'est la fin des des négociations sur l'UNEDIC
oui.
Et sur la réforme de l'assurance chômage. Alors évidemment, ce soir, ça coince de partout. Mmh. Certains disent on veut plus la dégressivité, d'autres qui disent qu'il la faut, qu'il a évidemment, on voit bien le clivage entre le patronat et les syndicats. Ils vont y arriver, ils n'ont pas le choix, parce que sinon, c'est une fois de plus l'annonce du paritarisme, de la mort du paritarisme et l'État qui va reprendre la main, non ?
Oui, j'espère qu'ils vont y arriver, parce que oui, l'État reprendra la main comme il le fait un petit peu partout, comme il a failli le faire pour l'Agirc-Arrco, même si là, il y a eu un compromis entre patronat et syndicat qui a coupé l'herbe sous le pied à l'État. Après, la négociation est difficile, parce que là, il y a vraiment deux approches un petit peu opposées. Bon, moi, vous connaissez mon point de vue, hein. Je pense que si on avait travaillé plus activement et bien avant la réforme des retraites sur le taux d'emploi des seniors, et je suis pas le seul à le dire, hein, le cercle des économistes, où il y a aussi des macronistes, le dit depuis longtemps, on n'aurait pas autant de tensions sur la réforme de l'assurance chômage. Donc j'espère qu'il y aura ce compromis, et puis si l'État reprend la main, il a intérêt à bien regarder ce qui se fait en Europe, et on parle de l'Europe quand c'est utile, on en parle moins quand on voit qu'il y a des pratiques différentes.
C'est-à-dire ?
En tout cas, sur le taux d'emploi des seniors, il y en a qui ont fait bien mieux que nous depuis longtemps, et sur la question du travail, qui est une question clé, parce que l'attrait pour le travail aujourd'hui pose quelques problèmes aujourd'hui, ben, il y en a qui ont fait beaucoup mieux et qui ont traité cette question des seniors avec un peu plus de dynamisme et d'efficacité.
Mais sur la question de l'assurance chômage, qu'est-ce qui fait beaucoup mieux que nous ?
Sur la question de l'assurance chômage...
Au niveau européen ?
Ben, peut-être qu'on se focalise un peu trop sur le niveau de l'indemnité, on se focalise un peu trop sur parfois sur la fraude. On croit parfois que le retour à l'emploi est facilité par la baisse des indemnités. Moi, là, je parle en tant que praticien. Je crois que les gens ont envie de trouver un emploi, et quand ils ne le trouvent pas et qu'ils attendent le dernier moment, c'est parce que ce qu'on leur propose n'est pas tout à fait satisfaisant. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les entreprises en France, plus encore que le problème de l'emploi, il y a un problème sur le travail, qui n'est pas assez attractif. Il y a une question de sens du travail, mais il y a aussi une question de conditions de travail. En Europe, on oublie souvent qu'on est parmi dans le peloton de tête en matière d'accidents du travail, en matière de risques psychosociaux. Donc il y a bien une question du travail qui n'est pas traitée sérieusement. Pendant trop longtemps, on s'est dit on travaille moins que les autres, mais on est beaucoup plus productif que les autres. Pendant un temps, c'était vrai. Aujourd'hui, la productivité faiblit pour deux raisons essentielles. D'abord, notre industrie s'est bien affaissée, et dans les services, il y a moins de productivité. Et ensuite, ben, on arrive au bout de la chaîne pour certains salariés, et la montée des risques psychosociaux notamment, fait que la productivité n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Donc on ne peut plus se rattraper là-dessus. D'ailleurs, c'était souvent moins une productivité du travail qu'une intensification du travail qui était à l'ordre du jour.
Et tiens, je vais rebondir sur la question de l'assurance chômage, juste sur ce point de la baisse de la productivité. Est-ce que c'est aussi parce qu'on fait travailler maintenant de plus en plus d'apprentis, c'est la réforme de l'apprentissage ? Certains disent, vous voyez, il y a moins de compétences. En fait, il y a moins de compétences, donc la productivité, elle est moins bonne.
Non, mais l'apprentissage joue un petit peu, explique une partie de cette faiblesse. C'est évident qu'on ne peut pas demander à un apprenti qui est en phase, par définition, d'apprentissage, d'être aussi productif que les anciens. Mais ça ne joue que, pas marginalement, mais c'est minoritaire dans l'explication de la baisse de productivité, du ralentissement plutôt de la productivité.
Je recevais, juste avant les vacances de la Toussaint, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui disait qu'il défendait le fait que l'État puisse puiser un peu dans les réserves de l'Agirc-Arrco, des retraites complémentaires, en disant, mais et c'est vrai, c'est la réforme qu'on a mise en place qui profite en fait aux retraites complémentaires, à la GIRC-ARCO. Donc il est aussi un peu normal que l'État, le gouvernement, qui a beaucoup travaillé là-dessus, misé là-dessus, en récolte des fruits, notamment pour la formation.
Oui, est-ce que quand l'État fait des choses qui ne sont pas tout à fait opportunes, il laisse d'autres gérer l'affectation des impôts et des ressources qu'il récolte au travers de l'impôt à d'autres? Pour une fois que dans le paritarisme, ça marche très, très correctement sur les retraites complémentaires, laissons les partenaires sociaux qui ne sont pas oublieux de l'intérêt général, qui peuvent aussi entendre certaines voix, se préoccuper un petit peu de la façon d'utiliser les excédents. Mmh. On ne peut pas dire d'un côté on passe en force dans une réforme et puis après, comme cette réforme a quelques aspects positifs sur les caisses des retraites complémentaires, oui, on va s'occuper de l'affectation. Ouais. C'est pas
donc
comme ça que ça marche.
Contre.
Et en tout cas, mais je suis pour respecter le paritarisme là où il marche bien et de temps en temps pour le titiller là où il marche moins bien. Il y a des endroits où les partenaires sociaux auraient pu faire mieux.
Donc on est en pleine discussion, ça vient encore de changer il y a quelques heures, sur ce fameux article 3 de la loi de l'immigration, pour savoir s'il faut permettre dans certains métiers en tension de régulariser les sans-papiers. Vous êtes au contact des entreprises, enfin, c'est ce que vous faites au quotidien et dans toute la France. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de ne pas faire trop de politique, mais qu'est-ce que vous en pensez,
Pierre Ferratti? Il faut éviter de faire de la politique et d'aller sur le terrain.
Et si on essaie de faire plutôt de l'économie.
Oui, et d'aller sur le terrain de l'extrême droite et de rester sur le terrain de l'économie.
Excusez-moi.
Ouais,
c'est un autre débat.
Non, mais de l'extrême droite qui pousse les feux et qui dit haro sur les immigrés. On sait très bien qu'on a besoin pour la croissance économique de demain d'immigration. Qu'il faille mieux la contrôler, c'est une évidence. Qu'il fasse mieux la cibler, effectivement, plutôt que de la subir, c'est une évidence. Qu'il fasse plus lutter comme des dérives communautaires ou communautaristes. Eh bien oui, mais c'est une évidence aussi.
Est-ce qu'on en a besoin?
Mais bien sûr qu'on en a besoin, et on va en avoir besoin d'autant plus que la natalité n'est plus tout à fait ce qu'elle était, que les enjeux de compétences sont aujourd'hui terriblement importants pour les entreprises. Alors il faut peut-être mieux la cibler, l'immigration. Il faut peut-être raisonner aussi en termes de besoins de l'économie et de complémentarité par rapport aux compétences de nos concitoyens. Mais bien sûr qu'on aura besoin de l'immigration. Il ne faut pas se laisser entraîner sur ce terrain-là parce qu'on commence à entrer en campagne présidentielle. Mais il faut mieux la contrôler et mieux lutter contre les dérives d'une immigration mal contrôlée. Là, je pense à des formes de radicalisme qui débouchent parfois sur des attentats comme on en a connu dans les années 2000. Bien sûr qu'il faut plus lutter contre ça.
Oui, et c'est aussi pour ça. On observe ça dans certaines filières.
Oui, et c'est aussi
quand même
parce qu'on ne lutte pas suffisamment contre ça qu'à l'arrivée, certains citoyens, parce que les sondages sont les sondages, se disent l'immigration est un problème. Oui. C'est un problème en termes d'identité, c'est un problème en termes d'économie, alors qu'on mélange un petit peu tout.
Juste un point encore sur le pouvoir d'achat. L'INSEE a publié des chiffres là, juste il y a quelques instants, en disant que dans le privé il y avait une nette baisse du pouvoir d'achat, un peu contrairement à la petite musique qu'on entend.
La plus importante depuis 96.
De 1% en 2022, comme en disant il n'y a pas un rattrapage des salaires, sauf évidemment les très bas salaires, enfin au SMIC, parce que là il y a eu un rattrapage
là,
et c'est fixé
vers l'inflation.
Ça vous inspire quoi, Pierre Ferratti? Ça vous étonne?
Non, c'est ce qu'on voit dans les entreprises. L'inflation qui a galopé, même si elle a ralenti depuis, a fait quelques dégâts dans le pouvoir d'achat. Il y a une vraie attente des salariés pour un rééquilibrage du partage de la valeur. Ce problème de pouvoir d'achat est doublé d'une angoisse qui est réelle dans les entreprises sur les enjeux de la transition. Mmh. La transition numérique et l'IA, la transition environnementale, parce qu'on a peur qu'elle fasse des dégâts sur le plan social qui ne sont pas suffisamment pris en compte. On le voit dans l'automobile, même s'il y a des efforts qui sont faits en matière de formation et d'accompagnement. Donc cette angoisse se double d'un vrai problème de pouvoir d'achat, et je crois que la question du partage de la valeur doit être traité en même temps que la question du travail. Mmh. Moi, je pense qu'on ne traitera pas la question du travail et de ce rapport un peu compliqué des Français aujourd'hui au travail. Ils souhaitent travailler, mais ils souhaitent travailler dans d'autres conditions. Si on ne pose pas en même temps la question du partage de la valeur et donc des rémunérations, et en même temps aussi le problème, la question de la gouvernance des entreprises et de l'implication des salariés dans le traitement de ces grandes questions autour du travail et du partage de la valeur.
Votre fils, le député Marc Ferracci, qu'on reçoit souvent ici, non mais je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. Je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle, et lui non plus. Mais en même temps, et du coup, en plus, ça lui a coûté cher, ce lien filial, on va dire, dans le sens où il travaillait sur la loi Pôle emploi, plein emploi, pardon, et donc il a dû se déplacer, comme on dit. France Travail, vous pensez vraiment que c'est formidable, c'est la solution pour le plein emploi, pour aller vers le plein emploi?
Bon, ça lui a pas coûté si cher que ça, parce que quand des abrutis et des intégristes de la fausse information s'expriment dans les réseaux, il faut passer ça, et Marc, comme moi et comme mon groupe, on a limité limiter la casse parce qu'on a affaire à des gens qui sont dangereux d'ailleurs dans les médias et qui passent leur temps à raconter des salades et qui malheureusement parfois la démagogie a aussi malheureusement un petit peu de d'impact sur l'opinion.
Sur le fond, France Travail.
Sur le fond, France Travail. Je discutais récemment avec avec le futur patron de France Travail. Moi, je suis un peu dubitatif.
Parce que c'est énorme, machin.
Et mon fils le sait.
Ouais.
Je pense que on avait l'occasion en ce moment. Je pense d'ailleurs que ça va parfois. Je veux dire, on pense parfois la même chose avec mon fils. Il y avait le moyen de faire une vraie révolution sur les compétences des uns et des autres, sur la façon de gérer l'emploi et le travail. Je pense que on va dans le sens d'une meilleure coordination. Ça fait beaucoup de bruit, je suis sûr, pour pas grand-chose en termes de résultats au final.
Ouais.
Donc on va accompagner cette meilleure coordination, et en tant que praticien, si on peut le faire, on le fera. Je crois que c'était l'occasion de mieux répartir les compétences, ne serait-ce qu'au sein de la puissance publique, entre l'État, les régions, les départements, parce qu'il y a des enjeux aussi de RSA,
Bien sûr.
On ne l'a pas fait, c'est un petit peu dommage.
Ouais.
Peut-être que l'État n'a pas, enfin le gouvernement n'a pas la majorité aujourd'hui pour percer un petit peu les murs.
Et peut-être que ça se fera, peut-être, soyons optimistes, peut-être que ça se fera par la suite.
Peut-être que ça se fera. Je laisse entier d'ailleurs le problème de savoir qui doit prendre le lead entre les régions et l'État, entre les départements et les régions, mais c'était l'occasion d'un vrai débat là-dessus, et je pense que je ne vais pas parler à sa place, mais que sur ce plan-là, peut-être que des députés de Renaissance, et pas seulement lui, espéraient davantage quelque chose d'autre qu'une coordination meilleure, même si elle est souhaitable, si on arrive à...
À votre avis, ça doit être, en un mot, à quel échelon?
Ah, moi, je suis partisan aujourd'hui, pourtant il m'arrive d'être un peu jacobin. Mais non, je suis partisan de voir l'État se recentrer sur ses tâches régaliennes. L'éducation, la sécurité, une défense des frontières aussi, parce que c'est utile avec les problèmes qu'on a sur la planète. Et peut-être que les régions peuvent prendre aujourd'hui davantage d'importance dans la formation, dans l'accompagnement et dans la gestion de l'emploi.
Oui.
Mais ça veut dire qu'il faut aller au bout d'une forme de décentralisation. On hésite depuis des années, on est toujours entre deux eaux. On est toujours entre deux eaux.
Entre deux eaux, absolument. Est-ce que vous observez beaucoup, Pierre Farachi, encore une fois, vous passez votre vie dans les entreprises, hein. Est-ce que vous observez de plus en plus de défaillances d'entreprises, notamment à cause du remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État?
Oui, ça commence à poser des problèmes, et l'indicateur évoqué par le gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas autant que ça de défaillances, et donc d'intervention de l'État en dernier recours, qui de temps en temps d'ailleurs fait jouer aux banques un jeu un petit peu particulier, cet indicateur est un peu trompeur, parce que notamment dans les toutes petites entreprises, et même dans certaines entreprises de taille moyenne, l'entrepreneur, par exemple, réduit sa rémunération ou accepte des tensions de trésorerie qui peuvent le mettre aussi en situation un peu angoissante pour rembourser le PGE. Donc je crois que les PGE, il faudrait les rembourser avec un peu de discernement. Alors après, il faut aussi dire que pendant la période de pandémie, l'État a soutenu tout le monde. Il y a eu beaucoup moins de procédures collectives pendant cette période-là. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un coup de balancier qui fasse que beaucoup aillent au tapis, parce que la sortie de crise et la sortie de la pandémie n'a pas été aussi favorable que ça en termes de croissance économique.
Et est-ce que vous voyez vraiment des banques, parce que c'est ce qu'on entend, encore une fois, je disais ça hier, est-ce que vous avez des banques qui préfèrent à la limite aller à la liquidation comme ça, c'est des prêts garantis par l'État, plutôt que d'essayer des plans de sauvegarde qui sont parfois plus hasardeux?
C'est très minoritaire et très marginal, mais c'est très choquant. Il y en a effectivement qui jouent ce petit jeu dangereux.
Ouais.
En discutant avec quelques administrateurs judiciaires récemment, qui sont aussi un observatoire très intéressant de la vie économique et sociale, on avait à peu près la même opinion sur le sujet. C'est pas majoritaire. La plupart des banques jouent le jeu et essaient de regarder avec attention ce qui se passe. Il y en a quelques-unes qui s'appuient sur la garantie de l'État pour jouer un petit jeu dangereux.
Et donc, après avoir été le parrain du dialogue social, vous avez envie de devenir le parrain du football. Parce que, je le disais en introduction, Pierre Farachi, vous avez jeté un pavé dans la mare, vous avez dit, voilà, je prône la gratuité, je fais le pari sur la gratuité des places au stade Charletti, où joue votre club, parce que vous êtes l'actionnaire majoritaire, le Paris FC. Donc, vous êtes en Ligue 2 pour les hommes, Division 1 pour les femmes, qui se sont sélectionnés pour la Ligue des Champions.
Tout à fait.
Peut-être que le PSG d'en face, les hommes, regardent elles ont fait.
Qui vont rencontrer le Real de Madrid et Chelsea aussi, ouais. Et puis une équipe suédoise très forte également. Donc on est ravis parce qu'elles franchissent chaque année des étapes supplémentaires. Bon, nous on n'est qu'en Ligue 2, on est le vrai deuxième club parisien. Il n'y a personne entre le PSG et nous.
Il n'y a même pas le Red Star.
Non, le Red Star n'est pas encore en Ligue 2. J'espère qu'il le sera d'ailleurs, ça fera de beaux derby parisiens.
Popularité, on va dire.
Oui. Voilà. Nous, on a fait un choix qui consiste à donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Le football n'a pas toujours une bonne image, il faut le dire en ce moment. La violence, parfois des propos xénophobes, parfois des propos homophobes. L'argent roi qui coule un peu partout, même en ayant de bons rapports avec le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est pas normal que trois pays du Moyen-Orient contrôlent des clubs de football. Ils ont mis la barre sur le plan économique très haut, et même les clubs historiques ont du mal à suivre. Les droits audiovisuels, on sait en France que ça va être une bataille difficile. Vincent Labrune, le président de la LFP.
Il n'y a même pas Canal.
Malheureusement, certains ont bataillé avec Canal pendant des années. Je crois que c'était une mauvaise chose. J'étais un des rares présidents à l'avoir dit à l'époque. Donc aujourd'hui, le football devient cher. Il devient cher quand on essaie de le regarder à la télévision, parce que l'accès aux distributeurs devient de plus en plus cher. Il devient cher quand on va sur les stades. Alors moins en Ligue 2 qu'en Ligue des Champions et qu'en Ligue 1. Mais nous, on essaie de donner un signe. Le football, pour nous, c'est un bien commun. C'est le reflet de la société avec les bonnes choses et les pires des choses. Donc, il faut que l'accès au football soit plus facile pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le pratiquent, mais aussi pour ceux qui le regardent. C'est le sport le plus populaire de la planète. Donc, on a consulté tous nos actionnaires. Ils sont d'accord pour aller dans ce sens.
L'État du Bahreïn, hein, quand même.
Il y a aussi des Américains et des Indiens. J'ai un tour de table assez international, mais c'est majoritairement un club dirigé et contrôlé par moi et par mon équipe dirigeante et par d'autres petits actionnaires, mais que j'apprécie beaucoup autour de moi. Donc on a fait ce choix d'aller vers la gratuité tout au long de la saison, aussi bien pour les filles en Division 1 que pour les garçons en Ligue 2. C'est un pari. Je pense que la réaction de nos sponsors, de nos partenaires, nous permet d'affronter le défi économique que ça représente.
Ça vous coûte combien ? C'est quoi le défi économique ?
Disons que l'enjeu pour nous en Ligue 2, entre la perte de recettes de billetterie, les charges supplémentaires qu'on va avoir en termes de sécurité, mais aussi les recettes supplémentaires qu'on pourra avoir en termes de merchandising, même la buvette qui en rapporte quelques-unes dans les stades de football, l'enjeu est de l'ordre de 1 million d'euros. On espère que nos partenaires vont nous apporter ça et même davantage que ça. Donc le défi, il n'est pas économique, il est sociétal. C'est de dire en gros, tout le monde ne fera pas de la gratuité, mais j'espère que d'autres clubs nous suivront pour baisser les tarifs et faire en sorte que le football soit plus attractif sur le terrain de la tarification pour des catégories modestes qui sont à l'euro près aujourd'hui. Ouais. Avec l'inflation, on voit bien qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont du mal à se nourrir, à se loger, à se soigner. Et donc le loisir, c'est ce qu'on coupe en priorité, les vacances et les loisirs quand on a des problèmes de pouvoir d'achat.
Vous êtes étonné, juste une dernière question, par le bruit que ça fait, le boucan que ça fait.
Ah mais c'est incroyable, il y a des quotidiens étrangers qui en parlent, qui vont en parler. Bon, tous les médias français sont intéressés par la chose. Après, il faut qu'on transforme l'essai, à la fois en termes d'affluence, ça prendra du temps, hein, ça va pas être le déferlement immédiat, et sur le plan économique, c'est-à-dire en attirant dans une logique de responsabilité sociale les entreprises. Vous aidez les jeunes parfois en situation difficile à rentrer sur le marché du travail, mais aidez-les aussi, les jeunes et les moins jeunes, à venir voir du football sans débourser des sommes qui aujourd'hui sont inaccessibles pour bon nombre de catégories modestes.
Et bien, Ferracci, on voit bien le lien du reste avec ce que vous êtes avant, j'ai envie de dire, avant le foot. Merci, Ferracci, d'avoir été avec nous. Restez tout de suite, Thomas Asportas, l'info éco.